Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la corruption. Corruption, phénomène ancien, problème nouveau, c'est la question que soulève le dernier numéro de la revue internationale et stratégique. Le sujet fait l'objet d'une intense actualité avec le Brésil et au plus haut niveau, avec la procédure en cours de destitution de Dilma Rousseff, l'Espagne et le financement illégal du Parti Populaire, l'arrestation de hauts dignitaires en Chine, sans oublier le sport et les affaires en série au sein de la FIFA pour le football ou de l'association internationale des fédérations d'athlétisme. Le phénomène est ancien, très ancien, mais il ressurgit au gré d'une dénonciation qui se généralise et prend une ampleur sans doute inégalée du fait des outils de communication et d'information qui sont aujourd'hui les nôtres. La lutte contre la corruption, un phénomène stratégique qui s'étend à l'échelle planétaire. Comment interpréter cette nouvelle lutte? En quoi la corruption est-elle condamnable? Comment enfin lutter alors que la corruption paraît assez indissociable de la modernité de notre société. Nos invités, Gaspard Koenig, professeur de philosophie à Sciences Po Paris, directeur du think tank libéral Génération Libre, auteur de « Les discrètes vertus de la corruption », paru en 2009 aux éditions Grasset. Bonjour.
Bonjour.
Et Barthélémy Courmont, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, directeur de recherche à l'IRIS et rédacteur en chef de Monde chinois Nouvelle-Asie. Bonjour.
Bonjour.
Dans les discrètes vertus de la corruption, Gaspard Koenig, vous ressortez de l'oubli un auteur anglais du début du XVIIIe siècle, plutôt provocateur, Bernard Mandeville, et sa fable des abeilles. Vous parlez des vertus discrètes de la corruption sans lesquelles les économies stagneraient, les sociétés se déliteraient et les hommes resteraient des idéologues stérile. Vous dites encore que ce qu'on appelle la corruption ne se résume pas à des affaires de pot de vin. C'est une question, dites-vous, de vie ou de mort qui met en jeu aussi bien la nature du mal que la survie de l'homme. Explication de texte, Gaspard Koenig.
Oui, alors ce qui m'intéressait, c'est de retourner un peu aux sources philosophiques du concept même de corruption, parce qu'on parle beaucoup de corruption, mais au fond, qu'est-ce que c'est? Et on s'aperçoit qu'à peu près dans toutes les langues, y compris en chinois d'ailleurs, la corruption désigne à la fois la corruption des corps, la corruption des chairs, et puis la corruption matérielle, monétaire, et enfin la corruption des âmes, une sorte de déliquescence, le fait de d'accepter en un sens les réalités de la vie. C'est d'ailleurs tout le parcours de Lucien de Rubempré dans Les Illusions perdues de Balzac. Et Balzac en parle constamment, des lignes de corruption qui traversent le parcours de Lucien. Et à la mesure que Lucien se corrompt, en même temps, Lucien se densifie. De tout naïf, tout benêt qu'il était au début, il découvre le monde, il découvre la vie, il apprend à y être un acteur. Et finalement, il acquiert aussi une certaine personnalité, une manière peut-être plus subtile de voir les choses, alors que son ami d'Arthez, qui lui est resté dans sa bulle idéaliste et un peu coupé du monde, enchaîne les écrits stériles. Et il est facile de voir que Balzac se reconnaît plus en Lucien de Rubempré que dans d'Arthez. Mais alors, pour revenir un peu au début et à la fable des abeilles, d'abord, la fable des abeilles commence en fait comme les mouvements anticorruption que vous décrivez aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans la société anglaise prospère, et aujourd'hui, nous sommes quand même dans un monde globalement plutôt prospère, où la pauvreté se réduit. Et dans ce Londres plutôt prospère, donc du début du XVIIIe siècle, que Mandeville travestit en société des abeilles, c'est pour ça que ça s'appelle les fables des abeilles, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'échanges, et il y a évidemment beaucoup de corruption. Et alors un certain nombre d'abeilles se révoltent, c'est Occupy Wall Street avant l'heure, si vous voulez, se réunissent et disent « à bas les fripons ». Et Jupiter, pour les punir de leur arrogance, leur instille la vertu dans leur cœur. C'est-à-dire que tout d'un coup, du jour au lendemain, tous les abeilles vont se comporter de manière parfaitement vertueuse. Et on voit que peu à peu, la société se délite. Il n'y a plus d'avocats, il n'y a plus de justice, bien sûr, puisque chacun obéit à la loi. Mais il n'y a plus non plus de banque. À quoi bon faire un emprunt? Autant vivre dans ses moyens. Il n'y a plus d'art non plus, puisque les gens n'ont plus envie de mettre en avant leur ego, etc., etc. Et à la fin, la société devient une société certes vertueuse, mais se retrouve au fond, puisque ce sont des abeilles, se retrouve au fond d'un arbre, petite et ignorée du reste du monde. Et le point de départ de Mandeville, là-dedans, c'est, au fond, avant de dénoncer la corruption, d'abord, regardons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous ne sommes pas tous un peu corrompus? Est-ce que la grande corruption que l'on voit, parce qu'elle est évidente, parce qu'elle manie des sommes qui nous paraissent gigantesques, n'est pas finalement le reflet ou simplement le miroir grossissant de nos petites corruptions quotidiennes? Et est-ce que finalement la corruption n'est pas, c'est-à-dire cette forme de don et de contre-don, à l'origine même des échanges humains? On cite bien sûr l'essai de Marcel Mauss, l'essai sur le don, où il parle de cette grande chaîne du don, du contre-don, du premier cadeau, du vaga, qui fait que nous entrons dans la communauté humaine et qu'en un sens, nous humanisons le marché. C'est-à-dire que la corruption est une manière de rendre l'échange personnel, d'y attacher une forme de morale, en un sens, puisqu'elle s'accompagne d'une promesse et d'un rapport personnel au-delà de la loi ou des mécanismes du marché. D'ailleurs, c'est ce que dit Mauss à la fin de son essai. Il dit « Ne faudrait-il pas rétablir cette sorte de morale de la table ronde contre l'inhumanité, je cite, l'inhumanité de nos codes ?» Et c'est vrai qu'on peut facilement être fasciné par les personnages de grands corrompus. Talleyrand, par exemple, que j'ai vraiment décrit longuement dans ce livre, parce que c'est la figure du corrompu par excellence, il ne s'en cachait pas d'ailleurs. Il a été réhabilité, c'est peut-être pas étonnant, par un auteur anglais des années 30, qui était Duff Cooper. Et Duff Cooper explique en quoi, finalement, la corruption de Talleyrand lui permettait de prendre les bonnes décisions stratégiques pour le pays. Parce que, en un sens, il le possédait tellement, il était tellement à la jonction de toutes les dynamiques du pays parce qu'il recevait d'une main et qu'il redonnait de l'autre, hein, un peu comme Fouquet aussi, ce sont des personnages magnifiques, les personnages de grands corrompus. Quand vous comparez Fouquet, l'immense Fouquet, le dispendieux Fouquet à Colbert, le froid Colbert qui le met en prison, vous ne pouvez pas ne pas être du côté du corrompu. Bon, et c'est un peu pareil pour Talleyrand. Et donc la thèse de Duff Cooper, c'est de dire finalement c'est parce qu'il était au milieu de tous ces échanges, de tout ce nœud, qu'il percevait mieux que Napoléon, en l'occurrence, les possibilités, les réserves de la France, et qu'il l'a, bon, dit Duff Cooper, après on peut en discuter, il l'a un peu sauvé au moment de la chute de l'Empire, de la retraite de Russie, en arrangeant la suite. Et puis, peut-être un dernier élément quand même, j'en ai déjà parlé en parlant de Mauss, il y a une sorte de lien social qui est créé par la corruption, qui existe encore, il y a un ouvrage sur l'Inde d'un auteur qui s'appelle Pavan Varma, qui s'appelle, dans un livre, Le défi indien, où il explique que là, la corruption est valorisée, en fait, socialement, quelque chose de positif, quelque chose de créatif, quelque chose qui crée du lien entre les gens. C'est des économistes aussi, sur notamment Huffington, dans les années 60, qui explique en quoi la corruption permet, dans des pays africains extrêmement sclérosés, avec une politique extrêmement autoritaire, de passer entre les mailles du filet. Et puis, vous avez un raisonnement par l'absurde, assez évident, qui est de dire l'incorruptible, la société incorruptible, est quasiment par définition une société totalitaire. Rappelez-vous que Robespierre, c'était l'incorruptible.
Voilà, et
que
quand on a une morale, personnage historique, effectivement,
on a une morale rigide, figée, quelle qu'elle soit, même la meilleure du monde, on ne peut que glisser vers des extrêmes, alors que la corruption met toujours un peu de mou, de lien, de liant dans la société. C'est vraiment pas très scientifique comme travail, mais enfin, j'ai regardé, corrélation n'est pas raison, mais j'avais comparé les tables de taux de suicide par pays et le classement de Transparency International. Et on s'aperçoit que ça correspond quasiment ligne à ligne. C'est-à-dire les pays où on se suicide le plus sont les pays les moins corrompus. Comme si, finalement, il y avait dans l'absence de corruption, dans la vertu, quelque chose d'un peu glacial. Alors, tout ça n'est pas pour dire qu'il faut être corrompu ou qu'il faut autoriser la corruption. Au contraire, la corruption ne peut exister que si elle est illégale. Sinon, elle n'est corruption contre rien. Et donc, en fait, le phénomène disparaît de lui-même. Mais c'est simplement pour essayer de peut-être relativiser un peu la dictature de la transparence, l'évidence anticorruption que l'on entend, et de rappeler que c'est un phénomène peut-être plus complexe, qui nous concerne tous. Regardons, encore une fois, est-ce qu'on n'a jamais rendu service à un ami qui voulait rentrer dans une entreprise et on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un ? C'est de la corruption. Si c'est fait par quelqu'un de très haut placé, ça nous paraît tout à fait scandaleux, parce que c'est plus visible, parce que c'est des sommes plus importantes qui sont en jeu, mais nous le faisons nous-mêmes. Est-ce qu'on n'a jamais donné un billet à quelqu'un? Bon. Voilà. Donc, j'ai essayé d'aller un peu au-delà des évidences, mais sans non plus en faire, évidemment, l'apologie.
Alors, jusqu'où la corruption est-elle une vertu? On en parlera peut-être. Juste, je me tourne vers vous, Barthélémy Courmont, avec, puisque vous connaissez bien la Chine, quelle résonance ce que vient de développer Gaspard Koenig trouve dans ce pays immense que vous connaissez?
Il y a effectivement, à la fois dans la dimension historique et dans les considérations actuelles, de très fortes résonances avec tout ce que je viens d'entendre, à la fois en matière de mise en place progressive d'un système de corruption à différents niveaux d'ailleurs, hein, et vous avez tout à fait raison de mentionner à la fois la grande corruption et puis la petite corruption qui va alimenter finalement une économie, qui va alimenter un dynamisme au sein d'une économie et qui caractérise effectivement l'histoire de la Chine impériale, hein, c'est bien sûr le système du mandarin Sénat, hein, de ces fonctionnaires impériaux qui est le plus symbolique, le plus emblématique d'un système extrêmement corrompu. Donc il y a là effectivement une résonance. Il y a une résonance aussi dans la manière avec laquelle cette corruption organisée et puis, disons-le clairement, hein, autorisée ou avalisée par le pouvoir central qui en tire bien évidemment des bénéfices, eh bien va fustiger une partie importante et puis parfois qui entre véritablement en dissidence, voire en confrontation de la population. Mmh. Et l'histoire de la Chine est émaillée de troubles sociaux à très grande échelle, de révoltes paysannes, de renversements aussi de dynasties ou d'empereurs qui étaient jugés corrompus ou qui étaient soupçonnés d'être corrompus. Et puis plus près de nous, bien évidemment, c'est un argumentaire que l'on retrouve de manière très forte à la fois dans la Révolution chinoise de 1910, hein, qui part du principe que la faillite de l'Empire de Chine, c'est ce système corrompu, ce sont eux les responsables de la faillite de ce système face aux puissances occidentales. Mmh. Et puis, plus près encore, évidemment, la révolution communiste de 1949, qui, elle encore, insiste sur la nécessité de lutter contre la corruption. Donc, vous voyez qu'historiquement, le rapport à la corruption et à la lutte contre la corruption est effectivement omniprésent dans cette histoire de Chine, et elle est encore, de nos jours, très présente. On le voit depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, avec cette campagne anticorruption. Hein. Il l'a dit d'ailleurs, campagne contre la corruption, le luxe et la bureaucratie. Donc on voit bien ce triptyque qui est pointé du doigt et qui nous ramène un petit peu à ce que vous décriviez tout à l'heure, hein, c'est exactement cela, à savoir faire effectivement avancer une société autour de ces différents éléments. Alors il est intéressant, on aura l'occasion bien évidemment d'y revenir, je n'en doute pas, sur le fait qu'on va instrumentaliser politiquement cette lutte anticorruption. Donc la vertu peut aussi avoir son vice intérieur, son vice caché, et en l'occurrence il s'agit bien évidemment de consolider le pouvoir chinois et de crédibiliser les élites politiques chinoises en désignant un certain nombre d'individus qui, à tort ou à raison, sont identifiés comme ceux qui, comment dire, portent en eux cette responsabilité de la corruption et des problèmes que cela engendre. Mais il est intéressant, effectivement, de voir dans quelle mesure il y a un rapport constant à la lutte contre la corruption. Je rappellerai aussi que à l'occasion des événements de la place Tiananmen de 1989, eh bien, l'un des arguments les plus mobilisants de cette jeunesse chinoise à la fin des années 80, c'était justement de lutter déjà à l'époque contre la corruption de ces élites communistes qui commençaient à s'enrichir déjà avec les réformes de Deng Xiaoping. Donc on retrouve aujourd'hui des résonances aussi de ces phénomènes, ce qui m'amène à considérer, et l'exemple de Robespierre que vous mentionnez est tout à fait intéressant, qu'on retrouve dans cette lutte anticorruption chinoise à la fois la mise en avant d'un système entre guillemets vertueux, même si on le verra encore une fois, il est extrêmement vicieux lui-même, et aussi, comment dire, un écho à des demandes, à des exigences même de la population. Et donc on se met un petit peu au diapason de ce qu'attendent aujourd'hui les Chinois. Il y a une énorme attente au sein de la population qui se manifeste notamment sur les réseaux sociaux. On y reviendra aussi, j'imagine, en détail. Et les Chinois attendent donc des autorités plus propres, des autorités qui vont lutter contre ces fameux tigres, ces gros corrompus qui sont, selon eux, responsables des inégalités sociales qui sont encore très fortes dans ce pays.
Alors évidemment, il n'y a pas que les Chinois. On parlait en introduction du Brésil. Il y a aussi la France, où selon une enquête du Centre d'études de la vie politique française, 80% des Français considèrent que notre démocratie fonctionne mal et citent d'emblée la corruption comme facteur explicatif. Et plus accablant, un peu plus de 70% d'entre eux considèrent que les responsables politiques sont corrompus. Nous accueillons Sylvie Matelli, qui est enseignante-chercheure à De Vinci Business Lab, directrice de recherche à l'IRIS et co-directrice du dossier sur la corruption de la Revue internationale et stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Richard Koenig, je me tourne à nouveau vers vous. On l'a évoqué, la corruption, c'est un phénomène ancien. Elle n'est pas perçue comme un réel problème, la corruption, ou elle n'est perçue comme un réel problème que depuis relativement peu de temps. Où en est l'explication ?
Et dans certains pays, je suis pas tout à fait d'accord, parce que vous ouvrez Juvénal, par exemple, il déplore déjà les vices de Rome et la corruption à Rome. Donc moi, il me semble que depuis que les hommes savent écrire et font de la politique, ils dénoncent la corruption d'une manière ou d'une autre. Ensuite, c'est vrai qu'il y a, je parlais de Mauss et de cette morale, finalement, de l'échange primitif, elle reste encore prégnante dans beaucoup de pays. On parlait de l'Inde, mais on peut parler de la Roumanie aussi, où il y a que je connais mieux, ce qu'on appelle la shpaga, qui est un mot qui vient du turc d'ailleurs, et qui est tout à fait admise socialement, c'est-à-dire que c'est une manière de faire circuler l'argent. Je me rappelle de visites dans les villages roumains où tout le monde s'échange des billets de 20 lei, de 40 lei, où l'argent perd presque sa valeur marchande de moyen d'échange pour devenir quelque chose de quasiment symbolique, qui alimente une sorte de cercle constant, si vous voulez, de ce qu'on doit appeler corruption selon les définitions de la corruption, hein. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à quelqu'un hors de tout cadre légal pour l'inciter à faire quelque chose, pour le récompenser à faire quelque chose, et en introduisant un lien personnel et un rapport de promesse. Voilà. Et j'ajouterais que Nietzsche avait cette phrase, il disait c'est dans les époques de grande corruption que finalement naît l'individu. L'individu contre le groupe, que l'individu arrive à s'émanciper de la morale du groupe. Donc, cette trajectoire historique peut être aussi vue à travers ce prisme-là.
Sylvie Métellier a un commentaire.
Oui, c'est très intéressant de rappeler et d'opposer l'individu et puis ce type de pratique, parce que je crois qu'on est vraiment dans ce cadre-là aujourd'hui avec la lutte contre la corruption, effectivement, n'est pas nouvelle. Il y avait eu un certain nombre de législations qui avaient été adoptées à la fin du 19e, au début du 20e, dans un certain nombre de pays, en particulier au Royaume-Uni. Et pour la petite anecdote, c'est cette législation qu'a ressorti le Royaume-Uni quand ils ont signé la convention de l'OCDE de lutte contre la corruption en disant c'est bon, nous on a déjà données et on a les moyens de lutter. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans une société effectivement peut-être plus individualiste, plus libérale au sens on va dire positif du terme, c'est-à-dire au sens où la liberté suppose le respect de chacun et le respect, les mêmes chances pour tout le monde. Donc je crois qu'on est dans ce type de société. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir poindre la lutte contre la corruption dans un certain nombre de pays où peut-être on ne l'attendait pas. On parlait de la Chine tout à l'heure, alors probablement aussi pour des raisons politiques, mais le cas du Brésil est particulièrement intéressant parce que c'est la première fois, probablement dans l'histoire contemporaine, que un dirigeant de très haut niveau est directement menacé par
une procédure de destitution.
Tout à fait. Et je crois que ça n'est pas arrivé aux États-Unis, ça n'est pas arrivé en France, ça n'est pas arrivé au Royaume-Uni ou dans quelconque pays dit occidental, alors même que il y a un certain nombre d'affaires qui auraient pu mener à ce type de suite. Donc je crois que le phénomène est très intéressant et à suivre. Et puis dernière petite remarque peut-être sur ces questions-là, et c'est la question que nous nous étions posées quand nous avons décidé du dossier de la revue. C'était de se rendre compte qu'en fait, c'est une certaine forme de corruption qui est totalement rejetée et de manière quasi universelle aujourd'hui par les populations. C'est la corruption des gens qui ont du pouvoir, que ce soit les hommes d'affaires ou les politiques. Assez peu, finalement, la petite corruption quotidienne qui représente au fond des sommes et une gêne pour la population certainement beaucoup plus importante et beaucoup plus forte que cette corruption de haut vol, si vous pouvez me permettre l'expression. Il y a quelques exemples de pays où ça choque, mais ça choque et ça gêne, et il y a des mouvements qui commencent à s'opposer à ça parce que ça pèse sur la vie quotidienne. Je pense à l'Inde où un site internet s'est ouvert et où chacun peut tous les jours aller déclarer le petit billet qu'il a dû donner pour faciliter telle ou telle démarche administrative. Mais ce sont des choses qui restent assez rares et qui sont assez peu décriées par les médias et même par les populations civiles.
Alors, Gaspard Koenig, la corruption cesse d'être vertueuse quand elle concerne les politiques ?
D'abord, je pense qu'il faut distinguer la corruption et l'extorsion, c'est-à-dire que la corruption, c'est un cercle où on donne et on prend. Et c'est vrai que quand la corruption devient de l'extorsion, c'est-à-dire qu'il y a un tel pouvoir qu'on peut prendre sans redonner. Et là, on n'est plus du tout dans le cas de Fouquet, par exemple, qui est au milieu d'un cercle d'échange perpétuel et qui lui-même est complètement endetté, parce qu'en fait, il ne touche rien, il ne fait que constamment redistribuer, c'est une sorte de dynamisme redistributeur. L'extorsion, là, c'est effectivement l'aspiration pure et simple. Ensuite, que vous dire s'agissant de la France, moi j'ai le sentiment, ça c'est vraiment subjectif, qu'en France, la corruption des politiques se fait moins à coup de mallettes et de billets. Il me semble que quand même ces pratiques-là ont largement disparu. Mais en revanche, il y a une espèce de corruption institutionnelle par les faveurs d'État, à commencer par les remises de Légion d'honneur, par exemple, on pourrait citer mille autres exemples, qui est presque plus problématique à mon sens, parce qu'elle est cachée, elle est légale, elle est beaucoup plus difficile à déceler.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission sur le cas français, le cas de la Chine et la corruption dans l'économie et dans les sociétés. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Sylvie Métellier, Gaspard Koenig et Barthélémy Courmont dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la corruption. Nous retrouvons nos invités. Sylvie Matelli, enseignante-chercheure à De Vinci Business Lab, directrice de recherche à l'IRIS et co-directrice du dossier sur la corruption de la Revue internationale et stratégique. Gaspard Koenig, professeur de philosophie à Sciences Po Paris, directeur du think tank libéral Génération Libre, auteur de Les discrètes vertus de la corruption aux éditions Grasset. Et Barthélémy Courmont, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, directeur de recherche à l'IRIS et rédacteur en chef de Monde chinois, Nouvelle-Asie. Nous avons terminé la première partie de l'émission en parlant un peu rapidement de la France. Je voudrais reprendre ce qu'il y a dans le dossier de la Revue internationale et stratégique, corruption, phénomène ancien, problème nouveau. C'est la question que vous posez, Sylvie Matelli, avec un extrait de l'interview de Daniel Lebeg, qui est président de Transparency International France. Il est particulièrement sévère, Daniel Lebeg. Il constate plusieurs choses. Que nous sommes, la France, le seul pays au monde à connaître une situation de cumul des mandats aussi extravagante, 3,5 mandats en moyenne par élu. En parallèle, pour faire condamner un élu français pour des faits de corruption, la durée moyenne de la procédure est de 10 ans. Au niveau international, la France a toujours été à l'avant-garde pour faire adopter des conventions et affirmer des valeurs. Mais les organisations internationales disent que notre pays pêche souvent quand il s'agit de se donner des moyens d'action. La France a signé la convention de l'OCDE il y a une quinzaine d'années. Mais depuis, la justice française n'a pas condamné une seule entreprise pour des faits de corruption internationale. Peut-être que nous sommes extrêmement vertueux. Quand la justice américaine en a condamné près d'une centaine, les Allemands une cinquantaine, les Britanniques une trentaine. Quelque chose ne fonctionne pas, dit Daniel Lebeg, dans l'application des règles auxquelles nous souscrivons. Il faut renforcer les procédures et les moyens d'action. Commentaire.
Gaspard Koenig. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème lié à la corruption ou un problème lié au rapport à la loi en général qu'on entretient en France. En Angleterre, on a vu, par exemple, mais là, ça n'a rien à voir avec la corruption. D'ailleurs, le cumul des mandats n'a pas grand-chose à voir non plus. On a vu que un député qui avait menti parce qu'il avait été flashé sur une autoroute et qu'il avait dit que sa femme conduisait pour que ce soit elle qui perde des points, a été condamné à 6 mois de prison ferme. Et il a passé 6 mois en prison. Je ne me rappelle même plus quand, en France, la dernière fois qu'un homme politique a été véritablement en prison. Et là, on a eu le cas d'Agnès Sall avec ses factures de taxi, qui se finit par 3 500 euros d'amende, alors que dans d'autres pays, ça aurait été le pilori.
Agnès Sall à la tête d'une société de services publics.
Voilà. Et ça me fait penser, puisque, pour revenir à la corruption, au livre d'Eva Joly que j'avais lu pour écrire mon livre. Donc, elle décrit sa lutte contre la corruption en France, avec une perspective, en plus, assez scandinave, qu'elle assume. De vertu, disons. Et elle-même se met en avant, disant « Moi, je suis un petit juge, regardez mes feuilles de paix, je vis très modestement. » Et puis, elle voit défiler dans son bureau tous ses patrons, la rosette à la boutonnière, dit-elle. Et elle dit finalement « J'ai l'impression que je découvre l'arrière-fond de la boutique de la République, qu'ils sont tous corrompus et je perds mes repères. » Et l'un d'entre eux me dit « Mais madame, il n'y a qu'un juge pour ne pas savoir que le capitalisme s'est construit à coups de délits d'initiés. » Et Eva Joly a ce moment de sincérité étonnant où elle dit « Mais et si c'était eux qui avaient raison ? Et si la création de richesses dans ce pays avait toujours fonctionné comme ça ? Et si c'était moi qui me trompais ?» Puis après, elle se reprend et dit « Non, 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 il faut lutter, même si c'est universel de tous les temps, il faut lutter contre ce phénomène. » Et puis, dernier doute, « J'écris ce livre dans une cabane en Rondin, je cite, hein, au fin fond de
la Scandinavie,
la Finlande, je crois. Et c'est merveilleux, ces pays propres, les gens sont honnêtes, l'air est pur. » Et puis elle écrit « Mais quand même, Paris me manque, les fêtes, l'extravagance, les dîners, l'esprit. » Et on lui dit « Mais est-ce que ça ne serait pas un peu lié aussi avec ce que vous dénoncez ?»
Sylvie Matelli, un commentaire.
Oui, sur la France, alors déjà ça fait presque 20 ans aujourd'hui que la France a signé et ratifié la convention de l'OCDE et la législation doit avoir 18 ou 19 ans, donc effectivement c'est assez étonnant, même avec les 10 ans de procédure pour poursuivre un homme politique, qu'aucun homme politique et qu'aucune entreprise n'ait à ce jour été condamnée. Je crois que ça commence à se voir sur la scène internationale, ça commence à se voir et si on se rappelle un petit peu le scandale qui a eu lieu au Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni a mis du temps à ratifier une loi digne de ce nom pour lutter contre la corruption dans ce pays, je crois que ça peut largement pénaliser les entreprises françaises à l'avenir, puisque La justice américaine n'hésite pas à ressortir un certain nombre d'affaires et à poursuivre quand elle s'aperçoit qu'effectivement ces entreprises peuvent être mises en situation de distorsion de concurrence parce qu'il y a d'autres entreprises, d'autres nationalités qui à un moment donné ne respectent pas les mêmes règles. Je pense que ça risque de sortir et de toucher la France et les entreprises françaises par ce biais-là. Les entreprises françaises en ont aujourd'hui conscience hein, et essayent effectivement de mettre en place un certain nombre de mesures pour lutter contre la corruption. Mais encore une fois, il y a des affaires qui restent dans les tiroirs et qui peuvent ressortir à tout moment. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a peut-être un changement de mentalité qui peut s'opérer en France. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est déjà opéré à l'international et que ça peut revenir par effet de boomerang dans notre pays.
On reparlera des entreprises face à la corruption. Barthélémy Courmont, le cas de la Chine, on l'a évoqué un peu rapidement dans la première partie de l'émission. Le président chinois fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Cette politique anticorruption, elle répond à une très forte demande de la population. Vous le disiez, dans un pays où l'histoire des élites politiques semble étroitement liée à celle de la corruption. Est-ce qu'il faut voir dans la lutte contre la corruption initiée par Xi Jinping un simple moyen de recrédibiliser l'État-parti ou une opportunité de régler des comptes avec des rivaux encombrants ?
Bien, en substance, je dirais les deux à la fois, bien évidemment. Il y a effectivement, vous l'avez dit, ce climat qui est tout à fait particulier, qui est celui de la Chine aujourd'hui, un pays qui s'affirme progressivement sur la scène internationale, qui sera bientôt la première puissance économique mondiale, mais qui reste malgré tout confronté à une multitude de défis, notamment en interne, que ce soit des défis économiques et sociaux, mais aussi des défis politiques, hein, qui sont propres à la nature du régime et à la possibilité ou non pour ce régime de s'adapter à cette nouvelle donne. Une émergence très forte des classes moyennes en Chine, hein. On estime que d'ici 2020, les classes moyennes représenteront plus de 500 millions de Chinois contre environ 50 millions en 2010. Donc on va multiplier en 10 ans par 10 les classes moyennes chinoises. Cela a bien évidemment un impact profond à la fois sur l'accès à l'information, sur aussi le regard critique que ces populations peuvent porter sur la classe dirigeante et donc sur la question que nous évoquons ici de la corruption et des dérives de la corruption dans le système chinois. Donc il y a effectivement des attentes qui sont manifestées, comme je l'ai dit précédemment, sur les réseaux sociaux, qui sont un petit peu emblématiques de cette nouvelle génération de Chinois qui attend finalement des comptes et qui attend que l'État central eh bien, montre sa crédibilité, on y revient, hein, dans la lutte contre la corruption et s'empare de ce phénomène afin de montrer dans quelle mesure il répond à ces attentes. Et puis, d'un autre côté, comme vous l'avez mentionné, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, une forme de sinon dérive autoritaire, en tout cas consolidation du régime chinois. Xi Jinping est sans doute un dirigeant un petit peu plus centré, voire autoritaire que son prédécesseur Hu Jintao. Il a effectivement lancé cette vaste campagne anticorruption pour répondre aux attentes de la population, mais aussi, ne nous voilons pas la face, pour écarter un certain nombre de rivaux, hein, le plus célèbre d'entre eux étant bien évidemment Bo Xilai, hein, qui était le maire de Chongqing et qui a été arrêté, condamné pour corruption et incarcéré à perpétuité. Et puis nous avons une multitude d'autres cadres très importants, on les appelle les tigres hein, en Chine, pour décrire les responsables de la corruption. Il y a les tigres donc qui sont un petit peu ces gros responsables du parti ou des provinces qui sont jugés coupables de corruption et sur lesquels on peut effectivement considérer qu'il y a des règlements de compte. Et d'ailleurs à ce titre, on peut évoquer l'affaire récente des Panama Papers, hein, dans laquelle de très nombreux dignitaires chinois ou proches de familles chinoises apparaissent. Et comme par hasard, on constate que beaucoup de proches de Xi Jinping ou de Li Keqiang, le Premier ministre, sont présents dans cette liste et on ne relaie pas cette information en Chine. Il y a une absence de transparence totale sur les Panama Papers et donc ça nous ramène bien à l'idée selon laquelle il ne s'agit pas vraiment d'une lutte contre la corruption, mais de la corruption de certains acteurs qui peuvent faire de l'ombre, le cas échéant, à Xi Jinping. Et puis on parle aussi de mouches. Pour désigner ces petits corrompus. Donc on essaye de montrer qu'il ne s'agit pas d'un mouvement de règlement de compte, mais d'un mouvement global de lutte contre la corruption. Et puis, puisque c'est le cas qui nous intéresse ici et qui intéresse nos auditeurs africains, ceux que l'on qualifie de renards, c'est-à-dire ceux qui vont chercher à cacher leurs capitaux à l'étranger dans ce réseau diplomatique et économique de plus en plus fort qui est celui de la Chine aujourd'hui. Et l'Afrique apparaît effectivement comme un point de refuge pour de très nombreux individus corrompus.
Alors je redonne des chiffres que vous mentionnez hein, dans votre article dans la revue internationale et stratégique Barthélémy Courmont, on estime que près de 1500 milliards de dollars ont été transférés depuis la Chine de manière illicite depuis 2003, ce qui fait de la Chine le pays le plus touché au monde par la fuite des capitaux. Alors,
Vous parlez de l'Afrique. Il y a une véritable chasse aux fugitifs expatriés qui est organisée. Depuis le printemps 2015, une liste a été adressée, je cite encore ce que vous mentionnez dans votre article, à Interpol, d'une centaine de Chinois, dont 25% de femmes convaincues de corruption et réfugiées à l'étranger, pour près de la moitié d'entre eux aux États-Unis. L'opération est la partie émergée d'une vaste campagne qui a déjà rapatrié près de 700 fuyards dans 69 pays différents, et plus particulièrement donc l'Afrique, où nombre de hauts cadres ont su trouver refuge grâce à des complicités locales. C'est évidemment un changement de la part des autorités chinoises, alors qu'elles s'étaient longtemps appuyées sur des hommes de réseau pour faciliter les implantations industrielles et les écartent désormais. Donc voilà, ce qui est accepté un temps peut ne pas le rester ad vitam.
Oui, et puis surtout, on a ouvert la boîte de Pandore. Et on se retrouve dans une situation qui peut être potentiellement problématique pour le pouvoir central chinois. Dès lors que l'on a fait de cette lutte contre la corruption une priorité, comme vous l'avez mentionné, de cette présidence de Xi Jinping, dès lors que l'on va mettre au pilori de très hauts responsables, dès lors que l'on va effectivement aussi fustiger ces Chinois qui sont installés à l'étranger et qui jouent un rôle considérable dans la dynamique économique qui est celle de la Chine aujourd'hui, eh bien, on prend le risque d'opérer une forme de rupture entre ces classes certes corrompues, mais qui ont considérablement alimenté cette croissance chinoise au cours des 30 dernières années. Et on a de plus en plus fréquemment des ressortissants chinois qui sont effectivement installés aux États-Unis notamment, mais aussi dans ces pays africains, qui sont très inquiets quant à ces dérives qu'ils estiment populistes à bien des égards et qui évidemment les ciblent tout particulièrement. Donc le parti prend un risque, Xi Jinping prend un risque, c'est un risque sans doute calculé, mais sur lequel on risque d'avoir pas mal de remous et puis surtout des conséquences qui, elles, sont peut-être un petit peu plus imprévisibles. Les Panama Papers, par exemple, pourraient aussi fuiter à un moment dans la population chinoise et décrédibiliserait totalement cette politique de lutte contre ces fameux tigres.
Et ils sont très nombreux, ces Chinois que vous évoquez, Barthélemy Courmont. J'ai le chiffre de 10 000 Chinois qui vivent sous couverture avec un nouveau passeport africain, voire une nouvelle nationalité qui se serait réfugiée sous les latitudes africaines. C'est
oui,
beaucoup.
Oui, c'est énorme. Mais on peut mentionner aussi le cas de sociétés même occidentales, où vous avez une multitude de riches Chinois et qui ont fait fortune dans le secteur minier. Je parle notamment dans l'article du secteur minier qui est particulièrement visé par cette politique anticorruption et qui vont demander une citoyenneté étrangère pour pouvoir transférer leur capitaux à l'extérieur. Donc la file d'attente est très longue dans les consulats pour une demande de résidence et puis même de citoyenneté de ces riches Chinois.
Alors, vous parlez du secteur minier, je me tourne vers vous, Sylvie Matelli. Les entreprises face à la corruption, il y a des secteurs plus exposés que d'autres. Les industries extractives, c'est 23% des affaires de corruption transnationales, suivies de la construction, des transports internationaux ou encore des industries de la communication, de l'information.
C'est forcément les secteurs les plus touchés ou les plus exposés sont forcément les secteurs qui travaillent à l'international et qui sont en contact direct avec les pouvoirs publics. Donc dès que vous avez besoin d'une autorisation, dès que vous avez besoin de négocier avec un gouvernement ou un homme politique, à un moment donné, vous êtes exposé. Donc ce qui explique ces chiffres, je crois malgré tout, quel que soit le secteur d'activité, qu'aujourd'hui toutes les entreprises internationales, multinationales, sont de près ou de loin exposées à un scandale de corruption. Pas parce qu'elles corrompent toutes et on n'est pas là pour leur jeter la pierre ou pour porter quelques jugements que ce soit, mais simplement parce que ce sont des pratiques qui étaient tolérées à une certaine époque. Il faut se rappeler que dans les années 70 en France, vous pouviez déduire de vos impôts les pots de vin. C'est quelque chose, quand vous négociez à l'international, qui faisait partie de la négo, qui faisait partie du contrat, et tout bon commercial à l'international qui se respecte vous expliquait qu'on tolérait jusqu'à 10% et que ça ne choquait personne, et que même c'était un peu bizarre si ce type de pratique n'était pas réalisé, parce qu'on imaginait que c'était fait en dessous de table, en fait, et de manière totalement occulte. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises sont exposées de ce fait, parce qu'on a connu un changement total de situation, et parce que surtout, la lutte contre la corruption se généralise dans tous les pays. Fut un temps, on avait un certain nombre de marchés et de pays dans lesquels on penser être protégé par une opacité du pouvoir politique, une opacité des négociations d'affaires. Aujourd'hui, je crois que ces pays se comptent sur le bout des doigts. Et donc, finalement, que les entreprises sont en première ligne. Alors, la difficulté pour les entreprises, c'est qu'une entreprise multinationale, c'est des dizaines de milliers, voire parfois des centaines de milliers de salariés répartis partout sur la planète. Donc, comment surveiller, comment assurer qu'aucun de ses collaborateurs, de ses salariés,
Barbier ne va à un moment donné proposer un pot de vin, parce qu'il faut rappeler que la convention OCDE, donc qui lutte contre la corruption, rend responsable les dirigeants d'entreprise pour tout acte de corruption d'un de ses salariés. Donc on est face à une réelle difficulté pour les entreprises qui mettent en place un certain nombre de dispositifs pour lutter, de formation, de prévention ou de poursuite et de détection lorsque les faits se produisent. Et je crois que la difficulté, c'est aussi que les entreprises sont très souvent visées, très souvent exposées, très souvent médiatisées dans ces affaires. Mais c'est vrai que pour le moment, les pouvoirs politiques, hormis certains cas dont on a parlé en début d'émission, les pouvoirs politiques sont assez peu inquiétés. Ou alors ça passe très vite, hein. Il y a très peu de poursuites et très peu d'exposition de la part des pouvoirs politiques, surtout dans les pays émergents et sur certains marchés. Donc c'est la grande difficulté pour les entreprises qui se retrouvent face à des clients qui négocient et qui réclament encore ce type de pratique, et des entreprises qui sont un petit peu prises au piège, soit j'y vais pas en fait, hein. C'est ça le deal.
En tout cas, effectivement, la lutte contre la corruption, elle n'a de sens pour l'entreprise que si ses concurrents adoptent la même démarche. Un sujet d'actualité, un autre pour terminer peut-être cette émission. On l'a dit, la lutte contre la corruption génère des mouvements sur tous les continents et dans tous les régimes politiques. Elle a été un argument de légitimation pour les talibans en Afghanistan et pour l'État islamique, ce qui illustre de façon tragique finalement les dégâts stratégiques que peut causer la corruption endémique. Je vous propose de commenter sur cette actualité pour terminer, Gaspard Koenig.
C'est vrai qu'il y a quand même une caractéristique des États totalitaires qui est une lutte efficace contre la corruption. Et je me rappelle d'un passage de Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt où elle explique que, précisément, une des caractéristiques des cadres du régime nazi qui explique que ces politiques aient été mises en œuvre avec autant de constance, d'efficacité et sans état d'âme, c'était leur absence de corruption parce qu'ils croyaient en leur cause. Et je connais mal, c'est possiblement la même chose avec l'État islamique, des gens totalement fanatisés, qui croient en leur cause, qui du coup refusent toute corruption parce qu'ils ont une morale qui la transcende. Et je pense que la corruption est toujours une manière un peu d'échapper à la rigidité absolue d'une règle morale qui n'est jamais saine. Et j'aimerais conclure avec Bernard Mandeville, puisque nous avions commencé l'émission avec lui, qui écrit à la fin de cette fable que ceux qui veulent revoir un âge d'or doivent être aussi disposés à se nourrir de glands qu'à vivre honnête.
Sylvie Matelli.
Je crois pour conclure qu'effectivement la corruption c'est un instrument assez pratique pour un pouvoir politique à un moment donné. On l'a vu dans le cas de la Chine. On a cité un certain nombre d'exemples de dictatures ou de mouvements qui s'appuient sur la lutte contre la corruption pour émerger et pour convaincre. Le président indien s'est également appuyé là-dessus pour gagner les élections contre les élites en place. Donc je crois que c'est quelque chose d'important. Alors on n'a pas parlé du facteur économique. Quand on observe l'émergence de la lutte contre la corruption, on s'aperçoit effectivement, on a parlé de la classe moyenne dans le cas de la Chine, qu'elle arrive souvent, cette lutte, avec l'émergence d'une classe moyenne. Par contre, on a l'impression que cette classe moyenne s'offusque, s'inquiète, souhaite qu'on lutte contre la corruption lorsque la croissance et le dynamisme économique est là, mais qu'elle s'oppose de manière beaucoup plus virulente à ce type de pratique lorsque la croissance ralentit et que finalement son niveau de vie
Trouver des compensations, c'est cela que vous
tout
êtes
à fait
en train de
nous dire. On est d'autant plus choqué par la corruption qu'à un moment donné on a une situation personnelle qui devient plus difficile.
Barthélémy Courmont, très rapidement.
Oui, alors pour revenir sur cette relation entre régime autoritaire ou totalitarisme et lutte contre la corruption, rappelons que dans les régimes totalitaires et les régimes autoritaires, eh bien il y a une appropriation des richesses et de l'économie. Donc il s'agit effectivement d'une extorsion de l'ensemble du tissu économique du pays. Donc prenons l'exemple de la Corée du Nord. Hein. Est-ce qu'il y a une corruption en Corée du Nord? Non, puisqu'il n'y a pas de rapport entre les élites politiques nord-coréennes et des groupes de pression ou des lobbies économiques. Mais en revanche, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le système idéal.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Sylvie Matelli, enseignante-chercheure à De Vinci Business Lab, directrice de recherche à l'IRIS et co-directrice du dossier sur la corruption de la revue internationale et stratégique Corruption, phénomène ancien, problème nouveau, point d'interrogation. Gaspard Koenig, professeur de philosophie à Sciences Po Paris, directeur du think tank libéral Génération Libre et auteur de Les discrètes vertus de la corruption. aux éditions Grasset, Barthélémy Courmont, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, directeur de recherche à l'IRIS et rédacteur en chef de Monde chinois Nouvelle-Asie. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée au transport aérien. À demain.